Chapitre 10. L'appartement était bien tel que le faisaient supposer les indications de Madame Cadell. Dans l'antichambre, étroite et à demi-obscure, trois portes s'ouvraient. À gauche, celle de la salle à manger, au milieu, celle d'un salon et d'une chambre à coucher qui se commandaient, à droite, celle du cabinet vitré. C'est par cette dernière que M. de Trégas glissa sans bruit, et immédiatement il reconnut que Mme Zélie ne l'avait pas trompé et qu'il allait tout voir et tout entendre de ce qui se passerait dans le salon. Il vit la jeune femme y entrer. Elle posa ses provisions sur une table et appela « Vincent !» L'ancien caissier du Crédit Mutuel parut aussitôt, sortant de la chambre à coucher. Oh, il était changé à ce point que sa femme et ses enfants eussent hésité à le reconnaître. Il avait abattu sa barbe, épilé presque complètement ses épais sourcils et caché ses cheveux plats et rudes sous une perruque brune. À sa redingote de marguillier de campagne, selon l'expression de Mademoiselle Césarine, à ses pantalons trop courts et à ses souliers lacés, il avait substitué des bottes vernies, le pantalon à la prussienne, très évasé par le bas, et un de ses vestons à longs poils, courts et à larges manches, empruntés par l'élégance française aux palefreniers anglais. Il faisait effort pour paraître calme, insouciant, enjoué. Mais la contraction de ses lèvres trahissait d'horribles angoisses, et son regard avait l'étrange mobilité de l'œil des bêtes fauves, quand, à demi forcée, elle s'arrête un instant, écoutant les hurlements de la meute. Je commençais à craindre que vous ne me fissiez faux bon, fit-il à Mademoiselle Zélie. Mais il m'a fallu du temps pour acheter votre déjeuner. Et c'est la seule cause de votre retard. La portière aussi m'a retardé. Elle m'a remis une lettre dans laquelle j'en ai trouvé une pour vous, que voici. Une lettre ? S'écria Vincent Favoral. Et se jetant dessus, comme sur une proie, il en arracha l'enveloppe. Mais à peine l'eut-il parcourue. « Mais c'est monstrueux !» reprit-il, en froissant le papier entre ses mains crispées. « Mais c'est une trahison, infâme, ignoble !» Un violent coup de sonnette à la porte d'entrée l'interrompit. « Mais qui peut venir ?» balbutia Madame Cadell. « Oh, je le sais !» répondit l'ancien caissier. « Allez, je le sais, ouvrez vite !» Elle obéit, et presque aussitôt, une femme se précipita dans le salon, pauvrement vêtue d'une robe de laine noire. D'un mouvement brusque, elle arracha sa voilette, et M. de Trégas reconnut la baronne de Thaler. « Laissez-nous, » commanda-t-elle à Mme Zélie, d'un ton qu'on oserait prendre pour parler à une servante de cabaret. L'autre en fut révoltée. « Hein, de quoi ? » commença-t-elle. « Mais je suis chez moi, ici. »« Mais sortez !» me répéta M. Favoral, avec un geste menaçant. « Sortez ! Sortez !» Elle sortit. Mais ce fut pour venir se réfugier près de M. de Trégas. Vous entendez comme il me traite ? Lui dit-elle d'une voix sourde. Il ne lui répondit pas. Tout ce qu'il avait d'attention se concentrait sur le salon. La baronne de Thaler et l'ex-caissier du Crédit Mutuel se tenaient debout, l'un devant l'autre, immobiles, se mesurant du regard comme deux adversaires au moment d'un duel. « Je viens de lire votre lettre, » commença enfin Vincent Favoral. Froidement, la baronne fit. « Ah ? C'est une raillerie, sans doute. Non. Vous refusez de partir avec moi ? Oh, formellement. Mais c'était bien convenu, cependant. Je n'ai agi comme je l'ai fait que conseiller, pousser, harcelé par vous. Combien de fois m'avez-vous répété que vivre près de votre mari, vous était devenu un supplice intolérable ? Combien de fois m'avez-vous juré que vous vouliez n'être plus qu'à moi seul, me conjurant de me procurer une grosse somme et de fuir avec vous. Oui, j'étais de bonne foi alors. J'ai reconnu au dernier moment qu'il me serait impossible d'abandonner ainsi mon pays, mes relations, ma fille. Mais nous pouvons emmener Césarine, on n'insistait pas. Il la considérait d'un air de morne hébétement, tel qu'un homme qui soudainement verrait tout s'effondrer autour de lui. Alors, bégaya-t-il, ses larmes, ses prières, ses serments. J'ai réfléchi. Mais c'est pas possible. Si vous disiez vrai, vous ne seriez pas ici. Mais j'y suis pour vous faire comprendre qu'il vous faut renoncer à des projets irréalisables. Il est de ces conventions sociales qu'on ne déchire pas. Comme si ce qu'elle disait ne pût lui entrer dans l'entêtement. Il répéta, des conventions sociales. Et tout à coup, s'abattant aux pieds de Madame de Thaler, la tête rejetée en arrière et les mains jointes. « Mais tu mens, reprit-il. Avoue-moi que tu mens, et que c'est une dernière épreuve que tu m'imposes. Tu ne m'aurais donc jamais aimé? C'est impossible. Tu me dirais que je ne te croirais pas. Une femme qui n'aime pas un homme n'est pas pour lui ce que tu as été pour moi. Elle ne se donne ni si joyeusement, ni si complètement. As-tu donc tout oublié? Se peut-il que tu ne te souviennes plus de nos soirées divines de la rue du Cirque, des nuits dont le seul souvenir allume des flammes dans mes veines et dans mon cerveau? Oh, il était épouvantable à voir, effrayant et en même temps ridicule. Comme il voulait prendre les mains de Madame de Thaler, elle reculait et il la poursuivait, se traînant sur les genoux. « Mais où trouveras-tu, continua-t-il, un homme qui t'adore comme moi, d'une passion ardente, absolue, aveugle, folle? Qu'as-tu à me reprocher? N'étais-je pas, sans un murmure, sacrifié tout ce qu'un homme peut sacrifier ici-bas, fortune, famille, honneur, pour subvenir à ton luxe, pour prévenir tes moindres fantaisies, pour te donner de l'or à répandre à flot? N'ai-je pas laissé les miens aux prises avec la misère? Mais j'aurais arraché le pain de la bouche de mes enfants pour acheter des roses à effeuiller sous tes pas. Et pendant des années, est-ce que jamais un mot de moi a trahi le secret de nos amours? Que n'ai-je pas enduré? Oh, tu me trompais, je le savais, et je me taisais. Sur un mot de toi, je m'effaçais devant l'heureux que faisait ton caprice d'un jour. Tu m'as dit « vol », j'ai volé. Tu m'as dit « tue » et j'ai essayé de tuer. Il venait de saisir une des mains de la baronne, mais elle se dégagea vivement et d'un accent d'insurmontable dégoût. « Oh, assez » fit-elle. Dans le cabinet vitré, Marius de Trégard sentait frissonner à son côté Madame Zélie Cadel. « Quel misérable que cette femme !» murmura-t-elle. « Et lui, quel lâche !» L'ancien caissier restait prosterné, battant le parquet de son front. « Et tu voudrais m'abandonner, gémissait-il, quand nous sommes liés par un passé tel que le nôtre? Mais comment me remplacerais-tu? Où trouverais-tu un esclave plus dévoué de toutes tes volontés ?» L'impatience semblait gagner la baronne. « Cessez, interrompit-elle, cessez ces démonstrations inutiles et ridicules. » Cette fois, il se redressa comme sous un coup de fouet. « Mais que voulez-vous donc que je devienne ? » demanda-t-il. « Mais fuyez ! On n'est jamais embarrassé quand on a comme vous 1 200 000 francs en or, en billets de banque et en bonne valeur. » « Mais ma femme et mes enfants !» Maxence est en âge d'aider sa mère. Clotilde trouvera un mari, soyez tranquille. Rien ne vous empêche d'ailleurs de leur envoyer de l'argent. Mais n'en voudrez pas. Oh, vous serez toujours naïf, mon cher. » À la stupeur première de Vincent Faverolles et à son indigne faiblesse, Une colère terrible succédait. Tout son sang s'était retiré de son visage. Ses yeux flamboyaient. « Alors, reprit-il, tout est bien fini. Eh oui. Alors je suis joué misérablement, comme toutes les autres, comme ce pauvre marquis de Trégard que vous aviez rendu fou lui aussi. Malheureux. Oh, il a du moins sauvé son honneur, lui. Tandis que moi, je suis sans excuse, car je devais bien savoir, car je savais bien que vous étiez la morse que le baron de Thaler tendait à ses dupes. » Il attendait une réponse, mais elle gardait un dédaigneux silence. « Alors vous croyez, fit-il avec un rire menaçant, que tout est dit comme cela ? Mais que pouvez-vous ? Il y a une justice, j'imagine, et des juges. Je puis me constituer prisonnier et tout révéler. » Elle haussa les épaules. « Oh, ce serait vous jeter bien inutilement dans la gueule du loup, » prononça-t-elle. « Vous devez savoir mieux que personne que les précautions ont été assez habilement prises pour défier toutes les dénonciations. Oh, je n'ai rien à craindre. En êtes-vous bien sûr ? Méfiez-vous à moi, » fit-elle avec le sourire de la sécurité parfaite. L'ancien caissier du Crédit Mutuel eut un geste terrible, mais tout aussitôt, se maîtrisant. « C'est ce que nous allons voir, » dit-il. Et fermant à double tour la porte du salon qui donnait sur l'antichambre, il mit la clé dans sa poche, et d'un pas roide comme celui d'un automate, il disparut dans la chambre à coucher. « Il va chercher une arme, » murmura Madame Cadel. C'est ce que Marius avait cru comprendre. « Descendez vite, » dit-il à Madame Zélie, « dans un fiacre en face du numéro 25. Mademoiselle Gilberte Favoral attend qu'elle vienne. » Et se précipitant dans le salon, « Fuyez, » dit-il à Madame de Thaler. Mais elle était comme pétrifiée de cette apparition. « Monsieur de Trégard, oui, moi, mais partez, hâtez-vous !» Et il la poussa dans le cabinet vitré. Il était temps. Vincent Favoral reparaissait sur le seuil de la chambre à coucher. Si c'était une arme qu'il était allé chercher, ce n'était pas celle que supposaient Marius et Madame Cadel. C'était une liasse de papier qu'il tenait à la main. Apercevant M. de Trégard et non plus Madame de Thaler, un cri d'étonnement et de terreur s'étouffa dans sa gorge. Il démêlait si vaguement ce qui s'était passé qu'il avait oublié le cabinet vitré et que l'homme qu'il voyait là s'y tenait caché venait de faire évader la baronne. « Oh, la misérable !» bégaya-t-il d'une langue épaissie par la rage. « L'infâme ! Elle me trahissait, elle m'a livré, je suis perdu !» Maîtrisant la plus terrible émotion qu'il eût jamais ressentie, « Non, non, vous n'êtes pas livré !» prononça M. de Trégard. Rassemblant tout ce que lui avait laissé d'énergie la dévorante passion qui avait dévasté son existence, l'ancien caissier du Crédit Mutuel fit quelques pas en avant. « Mais qui donc êtes-vous » demanda-t-il. « Mais ne me connaissez-vous pas ? Je suis le fils de ce malheureux marquis de Trégard dont vous parliez il n'y a qu'un instant. Je suis le frère de Lucienne. » Tel qu'un homme qui reçoit un coup de massue, Vincent Favoral s'affaissa lourdement sur une chaise. « Oh, il sait tout !» gémit-il. « Oui, tout. Vous devez me haïr mortellement. Oh, je vous plains. » L'ancien caissier en était à cet instant où toutes les facultés exaltées à un degré insoutenable défaillent, où l'homme le plus fort s'abandonne et pleure comme un enfant. « Oh, je suis le dernier des misérables !» s'écria-t-il. Il avait caché son visage entre ses mains, Et en une seconde, comme il arrive, dit-on au mourant, sur le seuil de l'éternité, il revit son existence tout entière. Et cependant, reprit-il, j'avais pas l'âme d'un scélérat. Je voulais m'enrichir, mais honnêtement, par mon travail et à force de privation. Et j'y serais parvenu. J'avais 50 000 francs à moi lorsque j'ai rencontré le baron de Thaler. Hélas, pourquoi l'ai-je rencontré? C'est lui qui le premier m'a fait entendre que travailler, économiser est stupide, quand à la bourse, avec un peu de bonheur, on peut en 6 mois devenir millionnaire. Il s'interrompit, secoua la tête, et tout à coup, « Connaissez-vous le baron de Thaler ?» demanda-t-il. Et sans attendre la réponse de Marius, « C'est un Allemand, continua-t-il, un Prussien. Son père était cocher de fiacre à Berlin, et sa mère servait dans les brasseries. À 18 ans, une escroquerie le força de s'expatrier, et c'est en France qu'il va s'établir, à Paris. Admis dans les bureaux d'un agent de change, oh, il vivait misérablement quand il fit connaissance d'une blanchisseuse nommée Euphrasie, qui avait pour amant un grand seigneur très riche, le marquis de Trégard, dont la faiblesse était de se faire passer pour un pauvre employé. Euphrasie et Thaler étaient faits pour s'entendre. Ils s'entendirent et s'associèrent, apportant à l'association, elle, sa beauté, lui, son génie d'intrigue, et tout de leur corruption et leur vice. Elle était enceinte alors, et quand elle accoucha, elle confia son enfant, une fille, à de pauvres gens de Lucienne, avec la résolution bien arrêtée de l'y abandonner. Et cependant, sur cette fille, dont ils espéraient bien n'entendre plus parler jamais, et c'est sur cette fille, oui, que les deux complices bâtissaient leur fortune. C'est au nom de cette fille que Euphrasie arracha au marquis de Trégard des sommes considérables. Dès que Thaler et elle se virent à la tête de 600 000 francs, ils congédièrent le marquis et se marièrent. Alors déjà, Thaler avait pris le titre de baron et menait un certain train. Mais ses premières spéculations ne furent pas heureuses. La révolution acheva de le ruiner et il allait être exécuté à la bourse quand il me trouva sur son chemin, moi, pauvre imbécile, qui m'en allait de tous côtés, demandant comment placer avantageusement mes 150 000 francs. Et c'est d'une voix rauque qu'il parlait, et de son poing crispé dans le vide, il menaçait le baron de Thaler, sans doute. « Malheureusement, reprit-il, ce n'est que bien plus tard que j'ai su tout cela. Sur le moment, M. de Thaler m'éblouit. Ses amis, Saint-Pavin et les banquiers Jotras, le proclamaient l'homme le plus fort et le plus honnête de France. Je n'aurais cependant pas lâché mon argent sans la baronne. La première fois que je lui fus présenté et qu'elle arrêta sur moi ses grands yeux noirs, oh, je me sentis remué jusqu'au fond de l'âme. Pour la revoir, je l'invitai avec son mari et les amis de son mari à dîner chez moi, entre ma femme et mes enfants. Elle vint, son mari me fit signer tout ce qu'il voulut, mais en me quittant, elle me serra la main. Il en frissonnait encore, le malheureux. Et le lendemain, continua-t-il, je remis à Thaler tout ce que je possédais, et en échange, il me donna la place de caissier du crédit mutuel qu'il venait de fonder. Il me traitait d'un subalterne et ne m'admettait pas dans son intérieur, mais j'en riais. La baronne m'avait permis de la revoir, et presque tous les après-midi, je la rencontrais aux Tuileries, et j'avais osé lui dire que je l'aimais éperdument. Si bien qu'un soir, elle consentit à accepter, pour le surlendemain, un rendez-vous dans un appartement que j'avais loué. La veille de ce jour, et pendant que j'étais comme fou de joie, la veille de ce premier rendez-vous, le baron de Thaler me demanda de l'aider, au moyen de certaines irrégularités d'écriture, à masquer un déficit provenant de fausses spéculations. Comment refuser à l'homme que je m'apprêtais, pensais-je, à tromper? Je fis ce qu'il voulait. Le lendemain, Madame de Thaler était ma maîtresse et j'étais perdu. Cherchait-il à se disculper? Obéissait-il à ce sentiment impérieux, plus fort que la volonté, plus puissant que la raison, qui pousse le misérable à révéler le secret qui l'obsède? Et de ce jour, poursuivit-il, commença pour moi le supplice de la double existence que j'ai soutenue pendant des années. Ainsi le voulait ma maîtresse. Dure, avare, morose avec les miens, je devais près d'elle me montrer toujours souriant et d'une prodigalité folle. Mais j'aurais payé de mon sang et du sang des miens ses baisers et ses caresses. Et de nouveau, M. de Thaler m'avait demandé d'altérer mes écritures, et je l'avais fait sans hésiter, et bientôt ce fut pour mon compte que je les altérais. J'avais donné à ma maîtresse tout ce que je possédais, et elle était insatiable. Il lui fallait de l'argent, quand même, toujours, à flot. Elle avait voulu un hôtel pour nos rendez-vous, et j'en avais acheté un rue du Cirque. Si bien qu'entre les exigences du mari et celles de la femme, je devenais fou. Je puisais à ma caisse comme à une mine inépuisable. Et comme je sentais qu'un jour viendrait où tout se découvrirait, je portais toujours sur moi un revolver chargé pour me faire sauter la cervelle quand on m'arrêterait. Et en effet, il tirait à demi de sa poche et montrait à Marius un revolver. « Si encore elle m'eût été fidèle, » continuait-il, en s'animant peu à peu, « mais que n'ai-je pas enduré ?» Quand le marquis de Trégard est revenu à Paris et qu'il s'est agi de le dépouiller, ne s'est-elle pas donnée à lui ? Et elle me disait, « Es-tu bête, je n'en veux qu'à son argent, c'est toi que j'aime. » Mais lui mort, elle en a pris d'autres. Notre hôtel de la rue du Cirque était pour elle et pour sa fille Césarine comme un lieu de débauche. Et moi, misérable lâche, je souffrais tout, tant je tremblais de la perdre, tant je craignais d'être sevré des semblants d'amour dont elle payait mes sacrifices inouïs. Et aujourd'hui, elle me trahirait, elle m'abandonnerait, car tout ce qui est arrivé a été inspiré par elle. Pour me procurer une somme qui nous permit de fuir, de vivre à l'étranger, en Amérique. C'est elle qui m'a soufflé l'ignoble comédie que j'ai jouée pour endosser la responsabilité de tout. Monsieur de Thaler a eu des millions pour sa part. Je n'ai eu, moi, que 1 200 000 francs. De grands frissons le secouaient, sa face s'empourprait. Il se dressa et brandissant les lettres qu'il était allé chercher. « Mais tout n'est pas dit !» s'écria-t-il. « J'ai là des preuves que ne me savent ni le baron ni sa femme. J'ai la preuve de l'indigne escroquerie dont le marquis de Trégard a été dupe. Et la preuve de la comédie jouée par M. de Thaler et par moi pour dépouiller les actionnaires du crédit mutuel. Mais qu'espérez-vous ? Interrogea Marius. Il riait d'un air stupide. Moi, je vais me cacher dans quelque faubourg de Paris et écrire un phrasie de venir. Elle me cède 1 200 000 francs, elle viendra. Elle reviendra tant que j'aurai de l'argent. Mais quand je n'en aurai plus. Mais il s'interrompit, se rejetant en arrière. Les bras étendus comme pour écarter une terrifiante apparition. Mademoiselle Gilberte entrait. « Ma fille !» bégaya le misérable. « Gilberte !» La marquise de Trégard, prononça Marius. Une indicible expression de terreur et d'angoisse convulsait les traits de Vincent Favoral. Oh, il comprenait que c'était la fin. « Que voulez-vous de moi ? » balbutia-t-il. Mais l'argent que vous avez volé, mon père, répondit la jeune fille, d'un accent inexorable, les 12 000 francs que vous avez ici, puis les preuves que vous possédez, et enfin, vos armes. Il tremblait de tous ses membres. Me prendre mon argent, fit-il, mais c'est me livrer. Veux-tu me voir au bagne? Le déshonneur en rugirait sur vos enfants, monsieur, dit monsieur de Trigard. Nous ferons tout au monde au contraire pour vous soustraire aux recherches de la police. Eh bien, alors, oui, mais demain, il faut que j'écrive un phrasie, que je la voie. Mais vous avez perdu la raison, mon père, reprit mademoiselle Gilberte. Revenez à vous. Faites ce que je vous demande. Il se redressa de toute sa hauteur. Et si je ne voulais pas? Mais ce fut le dernier éclair de sa volonté brisée. Non sans d'horribles déchirements, non sans une lutte désolante, il céda, et l'argent, et l'épreuve, et ses armes. Il remit tout à sa fille. Et lorsqu'elle se retira au bras de monsieur de Trégard, « Mais envoie ta mère, supplia-t-il, elle me comprendra, elle ne sera pas impitoyable, elle. C'est ma femme, qu'elle vienne vite, je ne veux pas, je ne peux pas rester seule. » C'est avec une hâte convulsive que la baronne de Thaler franchit la distance qui sépare la rue Saint-Lazare de la rue de la Pépinière. La soudaine intervention de M. de Trégard confondait toutes ses idées. Les plus sinistres pressentiments tressaillaient en elle. Dans la cour de son hôtel, tous ses domestiques, réunis en un groupe, causaient. Ils ne daignèrent pas se déranger quand elle passa, et même elle put surprendre des sourires et des ricanements ironiques. Elle reçut un coup terrible. Que se passait-il? Mais que savait-on? La joie insolente des valets présage le désastre du maître. Dans le magnifique vestibule, un homme était assis quand elle entra. C'était ce même homme de mine louche que Marius de Trégard avait aperçu dans le grand salon, en mystérieuse conférence avec la baronne. « Fâcheuse nouvelle, dit-il d'un air piteux. Quoi? Mais cette coquine de Lucienne à l'âme chevillée dans le corps. Elle n'est que blessée, elle en viendra. Bon, il s'agit bien de Lucienne, mais monsieur de Trégard. Oh, lui, c'est un fin merle. Au lieu de répondre à la provocation de notre homme, il lui a pris le billet que je lui écrivais. Madame de Thaler eut un soubresaut. Alors, interrogea-t-elle, mais que signifie votre lettre de cette nuit où vous me disiez de remettre 2 000 francs au porteur? L'homme devint tout pâle. « Vous avez reçu une lettre, balbutia-t-il, cette nuit de moi ?»« Oui, de vous, et j'ai donné l'argent. » L'homme se frappa le front. « Oh, je comprends tout, s'écria-t-il. »« Dites, mais on voulait des preuves, on a imité mon écriture et vous avez donné dans le panneau. »« Voilà donc pourquoi j'étais consigné au poste cette nuit. »« Et si on m'a relâché ce matin ?» C'était pour savoir où j'irais. Je suis suivi, on me file. Nous sommes flambés, madame la baronne. Sauf qui peut. Et il s'élança dehors. De plus en plus troublée, madame de Thaler gagna le premier étage. Dans le petit salon bouton d'or, l'attendaient le baron de Thaler et sa fille. Allongés sur un fauteuil, les jambes croisées, le bout du pied à la hauteur de l'œil, mademoiselle Césarine suivait d'un air curieux et narquois son père qui, blême et secoué de tressaillements nerveux, se promenait de long en large comme la bête fauve dans sa loge. Dès que la baronne parut, « Oh, cela va mal, lui dit son mari, très mal. Oh, notre partie est diablement compromise. Vous croyez ? Oh, j'en suis que trop sûr. Un coup si bien monté, Mais tout est contre nous. Devant le juge d'instruction, Jotras s'est bien tenu, mais Saint-Pavin a parlé. Ce misérable drôle n'était pas satisfait de la part que je lui avais faite. Et sur ces dénonciations, Costeclar a été arrêté ce matin. Et Costeclar sait tout, puisqu'il a été votre confident, celui de Vincent Favoral et le mien. Quand on a comme lui dans son passé deux ou trois affaires de faux, on parle toujours. Il parlera. Peut-être a-t-il déjà parlé, puisque la justice s'est transportée chez Latermann, de la rue Jacquelet, avec lequel j'avais organisé la panique et la dégringolade des actions du Crédit Mutuel. Mais comment parer ce coup? D'un coup d'œil plus sûr que celui de son mari, Madame de Thaler mesurait la situation. « Oh, n'essayez pas de parer, » fit-elle, « ce serait inutile, parce que M. de Trégard a retrouvé Vincent Favoral, parce qu'à l'heure qu'il est, ils sont ensemble, en train de se concerter. » Le baron eut un geste terrible. « Oh, tonnerre du ciel !» s'écria-t-il. « J'avais bien dit que cet imbécile de Favoral nous perdrait. » Oh, vous étiez si facile de lui trouver l'occasion de se brûler la cervelle. Et vous est-elle si difficile d'accepter les conditions de M. de Trégard? C'est vous qui n'avez pas voulu. Est-ce moi aussi qui tenais tant de débarrasser de Lucienne? Il y avait des années que Mlle Césarine n'avait pas paru s'amuser autant. Et à demi-voix, elle chantonnait l'air fameux de la Perle de Pontoise. Touchant accord, heureux ménage. Mais à quoi bon récriminer, reprit Madame de Thaler après un moment de silence. Il s'agit de prendre un parti. Désespérément, le baron faisait appel à son sang-froid. Sans doute, reprit-il, mais lequel? De toute façon, il va falloir restituer les 500 000 francs de Lucienne, et peut-être 2 millions de la fortune du marquis de Trégard. « Oh, j'ai bien eu la prévoyance de mettre à l'abri les fonds du dernier coup de filet, mais on peut les retrouver. »« Mais le temps presse, monsieur. Eh, je le sens bien, mais que faire ?»« Filet, oh, on obtiendrait mon extradition. »« Rester, bon, ce serait peut-être encore le plus sage. »« En somme, je n'ai pas fait de faux, moi. »« Pourquoi serais-je poursuivi ?»« Pour escroquerie, pour manœuvre frauduleuse. » Ce serait 5 ans au maximum. On ne meurt pas de 5 ans de prison. Si on ne me met pas la main sur mes capitaux, je resterai encore 10 fois millionnaire, mon temps fini. Si on les découvre, eh bien, il me restera encore notre fortune personnelle pour recommencer les affaires. Mais la baronne pinçait les lèvres. Mais de quelle fortune voulez-vous parler, fit-elle, de la mienne? Mais n'est-elle pas mienne aussi? Aviez-vous le 1 000 000 de dot que je vous ai reconnu? N'est-ce pas de mon argent que j'ai placé sous votre nom, 1 200 000 francs? Nous sommes séparés de biens, c'est autant de sauvés. Elle hochait la tête. Oh, ne comptez pas sur cet argent, prononça-t-elle. Je l'ai bien gagné, il est à moi, je le garde. Lui la regardait d'un air d'inconcevable stupeur, comme s'il eût pu lui entrer dans l'esprit qu'elle parlait sérieusement. « Quoi, balbutia-t-il, vous ne me donneriez pas ?»« Pas un sou, mon cher, pas un centime. » Les traits décomposés par une épouvantable colère, l'œil injecté de sang et l'écume à la bouche. « Ah, misérable femme !» s'écria le directeur du Crédit Mutuel. « Exécrable créature ! C'est à moi que tu prétends refuser ce qui est à moi ?» Mademoiselle Césarine ne riait plus. « Pas de bêtises !» fit-elle. Mais la baronne ricanait d'un air de défi. « Ah, tu me crois donc aussi lâche que tes amants ?» clamait le baron, si stupide que Trégard, aussi ridicule que Favoral. Ici même à l'instant, tu vas me signer un abandon en règle. Il avançait pour la saisir, Elle reculait, le sachant peut-être capable de tout, lorsque brutalement on frappa à la porte. Au nom de la loi! C'était un commissaire de police, avec deux mandats d'amener, décerner, l'un contre le baron, l'autre contre la baronne de Thaler. Et pendant qu'entouré d'agents, il montait dans un fiacre, orpheline de père et de mère, murmurait mademoiselle Césarine. Eh bien, me voilà libre, on va pouvoir rire un peu. À cette heure-là même, M. de Trégard et mademoiselle Gilberte arrivèrent rue Saint-Gilles. En apprenant que son mari était retrouvé, oh, je veux le voir, s'écria madame Favoral. Et quoi qu'on pût lui dire, jetant un châle sur ses épaules, elle partit avec mademoiselle Gilberte. Lorsqu'elles pénétrèrent dans l'appartement de madame Zélie, dont elles avaient une clé, elles aperçurent dans le salon, leur tournant le dos, Vincent Favoral assis à une table, le haut du corps penché en avant et semblant écrire. Sur la pointe du pied, madame Favoral s'approcha et par-dessus l'épaule de son mari, elle lut la lettre qu'il venait de commencer. « Euphrasie, ma bien-aimée, maîtresse éternellement adorée, me pardonneras-tu l'argent que je gardais pour toi, ma chérie? L'épreuve qui vont accabler ton mari, on m'a tout pris, lâchement, de force. Et c'est ma fille. » Elle en était restée là. Étonnée de son immobilité, madame Favoral appela. « Vincent !» Il ne répondit pas. Elle le poussa du doigt. Il roula à terre, il était mort. 3 mois plus tard, se déroulait devant la 6e chambre l'affaire du crédit mutuel. Le scandale fut grand, mais la curiosité publique fut étrangement désappointée. Ainsi que dans presque tous les procès financiers, la justice, tout en constatant les plus audacieuses filouteries, n'avait pas su en démêler le secret. Elle sut du moins étendre la main sur tout ce qu'avait espéré mettre à l'abri le baron de Thaler, lequel fut condamné à 5 ans de prison. M. Costelard en fut quitte pour 3 ans, et M. Jotras pour 2 ans. M. Saint-Pavin fut acquitté. Poursuivi pour tentative de meurtre, l'ancienne marquise de Javel, la baronne de Thaler, fut relâchée, faute de preuves suffisantes. Mais impliquée dans le procès de son mari, elle est aux 3/4 ruinée et vit avec sa fille, dont on annonce les débuts aux bouffes et aux délassements comiques. Déjà, avant cette époque, mademoiselle Lucienne, complètement rétablie, avait épousé Maxence Favoral. Des 500 000 francs qui lui furent restitués, elle consacra 300 000 francs à payer des dettes de son beau-père, et avec le reste, elle décida son mari à s'expatrier. Paris leur était devenu odieux, à l'un et à l'autre. C'est au château de Trégard, à 3 lieues de Quimper, que Marius et mademoiselle Gilberte, devenues marquises de Trégard, sont allés se fixer, suivis dans leur retraite par madame Veuve Favoral et le comte de Villegré. La plus notable partie de la fortune de son père, Marius l'employait à désintéresser tous les créanciers personnels de l'ancien caissier du crédit mutuel, tous les fourcineurs, tous les fournisseurs et aussi M. Chapelain, le papa des Ormeaux et les époux des Clavettes. Il ne reste guère plus au marquis et à la marquise de Trégard qu'une 20 000 livres de rente. Mais s'ils les perdent jamais, bon, ce ne sera pas la bourse. Le crédit mutuel fait 467,25. Fin.